Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. J'adore le dernier chant. Enfin, je les aime tous, mais celui-là, il est joyeux. Il pousse à la communion. Il donne une raison supplémentaire, s'il en fallait une, d'être réunis ensemble le matin. Parce qu'il nous permet de, quand on chante ça, ensemble, ça donne à tout le reste de notre existence, ce qui est important, ce qui est notre quotidien, mais ça remet un peu à sa juste place. Et ça tombe bien parce que vous savez que nous allons cette année, Emmanuel vous en a parlé la semaine dernière, et puis Yann a commencé, donc cette année nous allons nous occuper des psaumes. Après avoir parlé des personnages de la Bible, nous parlons des psaumes, et les psaumes, vous savez, Yann nous l'a rappelé, ce sont avant tout des chants. Donc, lorsque nous chantons, en fait, nous ne faisons que continuer la tradition biblique, commencer très très tôt, puisque le livre des psaumes, comme je vous dis, on l'appelle aussi le livre des louanges. Yann nous l'a donc rappelé la semaine dernière. Et c'est beaucoup de chants, puisqu'il y a 150 psaumes. 150 psaumes qui étaient, alors dans, ils n'apparaissent pas dans la loi de Moïse, dans la Torah. Il n'est pas question de ces psaumes-là. En fait, ils sont apparus plus tard avec le roi David, dont on dit qu'il est le principal auteur de ces psaumes-là, alors qu'il en soit l'auteur ou le destinataire, qu'importe. Ce qui est important de se mettre en tête, c'est que ces psaumes-là accompagnent la vie des croyants depuis très très longtemps. Et pas en petite quantité, puisque je vous dis 150, c'est énorme, et ça veut dire que donc David, c'est le premier millénaire avant Jésus-Christ, donc ça fait quand même une certaine durée dans le temps qui leur donne force et crédibilité, en quelque sorte. Alors 150, et lorsque Yann avait la lourde tâche de présenter les psaumes, il avait vite compris qu'en effet c'était très difficile d'essayer de synthétiser ça. Et c'est pour ça qu'il avait commencé à juste titre par les psaumes 1 et 2, qui en effet nous révèlent d'entrée quasiment tout le message contenu dans ces psaumes-là. Ça n'empêche pas que on peut simplement, pour montrer l'exhaustivité, l'extrême différence de thèmes qui sont traités dans ces psaumes, ils ont été regroupés de façon un peu académique, en 7 thèmes. Donc il y a les hymnes proprement dits, il y a les complaintes individuelles, les gens qui sont tristes, qui se plaignent, qui sont malheureux, qui appellent au Seigneur, les complaintes collectives, ils le font au nom d'un peuple, il y a les chants de foi, il y a les chants de louange, il y a les chants royaux, qui ne concernent que les David, et enfin les chants de sagesse, qui essayent de donner une explication philosophique à nos existences. Alors, je vous disais que ces psaumes ils viennent de très loin, mais il faut pas croire qu'ils ont été oubliés. Ils continuent à avoir dans toutes nos églises une très très grande place. Déjà, ils sont cités 116 fois dans le Nouveau Testament. Je mets ça en corollaire aux 19 fois de Marie dont j'avais parlé il y a quelques semaines. Donc, ils sont très très présents. Pourquoi ils sont si présents? Ça prouve que simplement ils étaient très familier à la communauté juive de l'époque de Jésus. Aujourd'hui encore, ils ont une place très importante chez les juifs pratiquants, puisque ils sont utilisés et dits et récités dans tous les événements particuliers de leur vie. Quand ils ont un examen, une opération, un mariage, évidemment. Il y a toujours un psaume qui correspond à cette réalité quotidienne et qu'ils récitent. En dehors évidemment des fêtes précises, mais chaque famille juive pratiquante a toujours un psaume qu'ils ont appris par cœur et qui permet de soutenir le moment vécu dans le quotidien. Chez les catholiques, vous le savez peut-être pour ceux qui en viennent, chaque dimanche, il y a deux lectures, et une des lectures est un psaume. Et ça a été fait en sorte, puisque les lectures chez les catholiques sont organisées par l'autorité pontificale, et donc les catholiques entendent 80 psaumes par an, en gros, parce qu'il y a des messes spéciales. Donc, disons qu'en deux ans, les catholiques peuvent entendre l'intégralité des psaumes, même s'ils ne sont pas tous pris, pour des questions de longueur. Alors, ils prennent des extraits. Alors, je voulais aussi, pour finir ce petit, cette petite présentation historique importante, vous rappelez qu'il y a eu les manuscrits de la Mère Morte qui ont été trouvés hein, dans les années 50-60. Tout le monde a entendu parler de ces fameux manuscrits trouvés dans une grotte, dans une jarre. Donc on a trouvé environ 950 extraits de ou textes entiers ou extraits, mais on a trouvé tous les psaumes. Alors, pas tous en entier, mais tous les psaumes étaient là. On a même trouvé 155, mais il y en a 5 qui, depuis la nuit des temps, sont considérés comme non canoniques. Et donc c'est des textes qui avaient été écrits, recopiés environ jusqu'à 3 siècles avant Jésus-Christ. C'est vous dire que dans ces fameuses jarres, on y trouvait tous les psaumes. C'est tout à fait exemplaire de la place qu'ils prenaient. Donc l'idée, donc j'ai essayé très rapidement de vous montrer l'importance de ces psaumes. Depuis fort longtemps, plus sans doute qu'aucun texte, dans les différentes religions qui sont liées à la Bible. Et en fait, pourquoi cette importance? Elle est simplement due à la particularité des psaumes. En fait, les psaumes, c'est les hommes qui parlent à Dieu. Si vous les lisez, c'est toujours des suppliques, des reconnaissances, mais c'est l'homme qui monte vers Dieu, qui lui adresse la parole en quelque sorte, alors que finalement dans tous les autres textes, la plupart du temps, c'est Dieu qui parle aux hommes. Ou bien c'est des textes historiques qui racontent la vie des hommes par rapport à Dieu, ou bien c'est Dieu qui s'adresse aux hommes. Et d'ailleurs c'est intéressant que les textes des psaumes aient été placés, pour ça ils ont été placés d'après les savants vers le 14e siècle, vraiment entre le livre de Job et le livre des Proverbes. Parce que le livre de Job, c'est quand même par excellence le livre, je ne suis pas un spécialiste de ce livre-là, tu me dis si je me trompe, c'est quand même le livre où l'homme ose s'adresser à Dieu, même de façon tout à fait vindicative, et en entrant presque en conflit avec lui, parce qu'il n'était pas d'accord sur certains points. Et le livre des Proverbes, au contraire, c'est Dieu qui donne des règles de vie, des indications simples pour justement ne pas se fourvoyer. Et qu'au milieu, on ait placé les psaumes, qui sont justement la somme de toutes les suppliques au sens large, hein, plaintes, comme je l'ai dit, ou bien prières, ou louanges, ou doutes, ou questions, ce n'est sans doute pas gratuit. Alors, donc, comme disaient nos anciens, chaque prédicateur maintenant doit choisir un psaume. Alors là, vu que le 1 et le 2 ont été pillés, il m'en restait 148. Alors qu'est-ce que choisir? Je sais qu'on a tous notre psaume favori, parce que finalement on est un peu comme les juifs orthodoxes, ou tout au moins croyants, pratiquants. On a tous un ou deux psaumes qu'on aime bien se répéter à certains moments de nos existences, ou qui nous ont bien aidés, et on s'en souvient. Parfois il est mis bien sur notre bureau, ou dans notre Bible, la page est bien cornée. Alors moi j'en avais beaucoup, mais je ne vais pas vous embêter avec ma propre existence. Donc je me suis dit, on va essayer d'avoir un réflexe, entre guillemets, excusez mon orgueil, d'artiste, de pseudo-artiste que je suis un peu. Donc moi qui s'intéresse à l'art, et quand on s'intéresse à l'art, quel qu'il soit, on se rend compte que les plus grands artistes, quel que soit l'art pratiqué, sont ceux qui ont réussi à épurer au maximum leur art, aller vers la simplicité, sans écriture, en sculpture, en peinture. Et quand on regarde, on se dit, c'est très très facile en fait à faire, mais non, c'est en fait le fruit d'un immense travail pour aller du tout à l'essentiel qui va vraiment être le moyen précis d'exprimer leur sensibilité artistique. Vous avez Picasso, Giacometti, ces grandes statues, enfin voilà, tous ces gens-là, on croit que c'est un trait facile, non, c'est un trait qui vient de très très loin. Et donc je me suis dit, je vais simplement aller au plus court. Quel est le plus petit des psaumes? Je ne savais pas du tout auparavant. Si Dieu applique ce principe de, de simplicité qui tend vers l'efficacité maximale, eh ben le plus court devrait pouvoir nous raconter quelque chose. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais y aller, je ne dérogerai pas à la règle que j'ai choisie. Et j'ai pas été déçu. Évidemment, j'ai pas été déçu, puisque le psaume le plus court, c'est le 117. Le 117, alors je vais vous le lire, mais pas la peine de l'écrire, parce qu'il est très très court, parce qu'il fait 2 versets. Alors qu'il y en a qui en font 20, la moyenne c'est 10, 20, 30, il y en a qui, le psaume 119, il en fait 4 pages, voilà. Mais le psaume 117, 2 versets. Alors je vais vous les lire, tels que je les ai découverts, et puis nous allons en discuter ensemble. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel durera toujours, louez l'Éternel. Dans d'autres traductions, il y a marqué « car sa bonté est grande », à part « car sa bienveillance pour nous est efficace ». Vous voyez, c'est petit, hein, c'est tout concis, et pourtant, quand je vous dis que j'ai pas été déçu en appliquant ma méthode artistique, parce que tout y est dans ce psaume-là. Donc, les psaumes 1 et 2 que Yann nous avait décrits, en effet, eux, ils décrivaient du début, milieu, la fin, enfin, tout le bouillonnement de notre foi. Mais finalement, si on avait peu de temps, et qu'il fallait faire très très vite avant que quelque chose nous arrive, si on avait que quelques secondes, si on pouvait dire aux personnes, bah, louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace et la vérité de l'Éternel durera toujours, louez l'Éternel, on aurait dit quasiment tout, d'un seul trait de plume. Le génie de Dieu est sans doute dans ce psaume 117. Alors, on va reprendre un peu précisément. Vous avez remarqué que ce psaume débute et se termine par un impératif, un ordre. C'est louer l'Éternel et ça finit par louer l'Éternel. Et dès la deuxième partie du verset 1, il est marqué glorifiez-le. C'est-à-dire qu'en 2 versets, il y a 3 impératifs qui sont des ordres. Alors, pas l'ordre avec le bâton pour nous taper, hein, c'est l'ordre conseil, c'est je vous en prie, faites-le. Et cette obligation-là, elle doit être notre recherche permanente. C'est-à-dire dans la voiture, sous la douche, au boulot, dès qu'on peut, dès qu'on a la tête un peu libre, louons l'Éternel, glorifions-le. Ça donne des forces extraordinaires, simplement, je te loue, je te remercie. Alors on a des chants pour ça, mais même des phrases simples. Mais s'il est marqué ainsi, c'est un impératif 3 fois en 2 versets, c'est parce que ça a forcément des vertus, j'allais dire, thérapeutiques. C'est un cri de reconnaissance, c'est le résultat de toute notre foi. Il y a plein de fois, on a le bonheur d'être chrétien, de se sentir plein de son amour et de tout ce qu'il a fait pour nous, mais on ne sait pas comment le dire, on ne sait pas que... Ben, louez-le, merci, super, n'importe quel chant qui nous vient et qui dit ça, même de façon automatique, c'est pas grave, mais exprimons-le, c'est ce que Dieu nous demande. Et c'est que ça commence par ceci et que ça termine par ça, c'est la base, non pas de notre foi, mais c'est la base de l'expression de notre foi et de la possibilité que nous avons de la nourrir. Partons pas dans... C'est intéressant de réfléchir, je suis d'accord, mais louons-le, glorifions-le, merci, Abba Père, Alléluia, Amen, tout ce que vous... Ça, c'est pour ça que le chant qu'on a chanté en dernier, c'est ce qu'il dit. Laï, 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 bah oui, laï, 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 pour moi, c'est je te glorifie. Alors les paroles, laï, laï, c'est pas très compliqué, mais c'est génial, voilà, c'est vivifiant, c'est une médecine du corps, et il nous le demande. Le deuxième point... C'est que c'est un psaume universel, vous l'avez noté. 2 fois, louez l'Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples. Donc, en deux, trois mots, il nous enlève la notion d'individualisme, la notion d'égoïsme, la notion de moi-je. Si on a peu de temps pour dire quelle est notre foi, elle fait partie d'un tout qui concerne toute l'espèce humaine, dont nous faisons partie, évidemment. C'est la somme des petits qui fait le tout. Mais n'oublions pas que le plan général, il est pour l'humanité en particulier, et que nous en faisons partie, et que ce tout nous dépasse, et qu'on doit avoir en même temps la fierté d'être nous-mêmes, notre individu et notre identité, mais en même temps l'humilité de se dire que l'on fait partie d'un grand tout qui nous dépasse totalement, on en est bien d'accord, et dont on ne comprend pas tout, mais dans lequel nous devons avoir aussi, je redis le mot, l'humilité d'accepter d'être un des grains de sable qui fait la plage géante de Dieu. Et ne jamais oublier que ce louer l'Éternel que nous avons, nous, personnellement, il est là aussi pour donner exemple et témoignage à tous, toutes les nations, à tous les peuples, qu'il existe et qu'il a fait quelque chose dans notre vie. Et enfin, ces impératifs dont on a parlé, cette universalité, ne sont pas là gratuitement. Il y a une raison pour laquelle ils sont là, ils ont une cause qui est claire, c'est la fin du psaume. « Car sa bienveillance pour nous est efficace, sa bonté est grande, et la vérité de l'Éternel durera toujours. » Nous pouvons louer l'Éternel régulièrement. Nous pouvons être dans l'envie de que notre louange puisse toucher les gens autour de nous, puis de plus en plus de gens jusqu'à la terre entière, parce que nous savons que ces louanges reposent sur deux vérités. Il est amour, il est bonté, il est bienveillance. Et cette bienveillance, elle est efficace, elle est grande. Elle marche, elle fonctionne, elle n'est pas comptée sur des petites doses. Elle est, j'aime bien les deux traductions que j'ai, c'est grande et efficace. Efficace dans un monde où on nous dit qu'il faut avoir de l'efficacité dans le boulot, tout ce qu'on fait doit être efficace. Et ben nous avons un amour qui nous est donné, qui est d'une efficacité absolue. Et deuxième cause pour laquelle on peut louer, et on a l'orgueil de se dire que ça peut concerner tout le monde, c'est que la vérité de l'Éternel durera toujours. Et dans la même phrase, vous avez vérité, tout le monde est à la recherche de la vérité, éternel, c'est-à-dire qui n'a ni début ni fin, et elle est à toujours là. Il y a 2 jours, ma fille qui est en CE1, est revenu en disant « Papa, j'ai appris aujourd'hui la différence entre les segments et les droites. » Ça, c'est beau, ça. « Explique-moi. » Elle était très fière de me dire « Eh ben, un segment, on peut dire où ça commence, on peut dire quand ça finit, et une droite, on peut pas. » Elle me dit « Mais explique-moi comment tu peux me dire la droite, comment elle finit pas. » Alors, je lui ai dit sur le parking de l'école, il y avait une grande ligne blanche. Elle dit « Bah, tu vois, la ligne, là, elle continue. Mais elle va où ?» Et là, bah pareil. Et ça, pour elle, évidemment, c'était très dur à comprendre, alors que le segment, c'est simple. Eh ben, tous les gens, beaucoup de gens actuellement, ils cherchent des segments de vérité. Parce qu'au moins, il y a un début, ils peuvent s'accrocher dessus, et il y a une fin, au moins, ils se disent, je contrôle la situation. Mais Dieu, sa vérité, c'est pas un segment, c'est une droite. Et la droite, elle est infinie. Et alors, on a du mal à voir où est le début, on a du mal à voir où est la fin, parce que nous, notre vie à nous, c'est un segment. Et c'est la somme de tous ces segments qui fait la grande ligne droite de l'infini de Dieu. Et quand on relit ce psaume-là, donc ces 2 versets, je vais les relire pour vous, à la lumière de ce que j'ai modestement dit, et que vous aviez forcément vu si vous étiez penché dessus, dites-vous bien qu'on a tout dedans. Toute notre foi, elle est comprise dans ce génie de Dieu qui, d'un coup de pinceau, nous dit, écoutez, si vous n'avez pas le temps de tout lire, allez au 117 au moins, je vous simplifie, et paf. Et si vous ne le comprenez pas parfaitement, si je ne comprends pas parfaitement 117, c'est qu'il me manque encore un élément. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, glorifiez-le, vous, tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l'Éternel durera toujours. Louez l'Éternel. Alors, je disais, c'est le résumé de notre foi. Dieu est vrai, Dieu est éternel. Dieu est la bonté, l'amour, d'une efficacité absolue, et Dieu est pour tous. Moi, je crois que ce soir, je l'imprime et je le mets sur mon frigo. Parce que vraiment, en le relisant encore avec vous, je vois sa perfection. Alors, en hébreu, je ne sais pas ce que ça donne, ça doit être encore plus vrai, avec des chiffres, des lettres précises. Mais... Alors, ce qui est amusant, c'est que ce psaume-là, il est tellement Alors je vous dis que le psaume était sans, les psaumes étaient sans, cités 117 fois dans le Nouveau Testament, mais celui-là, il est cité plus au moins trois fois, pas exactement, enfin une fois exactement, puis deux fois, c'est la même idée, dans Romains 15, donc le 8 à 12, donc je lis juste le passage, donc c'est Paul, et pas à n'importe quel moment, qui parle de Christ, donc qui ramène ce psaume qui était avant la venue de Jésus dans la nouvelle perspective de la nouvelle alliance. Je dis en effet que Christ est devenu serviteur de circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde selon ce qui est écrit. C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en honneur de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Vous voyez, Paul, évidemment juif, plein de cette culture-là, ressort ce psaume 117 pour lui donner la force nouvelle à l'aune de la venue de Jésus. Et dans Apocalypse, alors je vais vous en lire qu'un parce que c'est le verset n'est pas cité en tant que tel, mais l'idée de l'universalité est évidemment présente. Et on peut avoir l'impression que les psaumes, évidemment, c'est du temps passé. J'essaie de vous montrer que c'est toujours d'actualité, mais ça projette, et surtout le 117, projette vers ce qui nous attend tous, c'est-à-dire les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Et dans l'Apocalypse 7, versets 9 à 10, « Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. » Donc, ce petit psaume qui en même temps contient nos vérités à nous, nos vérités du présent, est aussi la promesse de ce qui va arriver plus tard, au bout de cette ligne droite infinie, dont peut-être nous serons en présent, je ne sais pas, mais dont on doit faire confiance, on sait qu'elle va quelque part. Alors, mais à cet endroit-là de notre réflexion, on peut se dire que cette universalité, presque cet anonymat, a un côté un peu angoissant. Parce que si on n'est qu'un petit segment sur la grande ligne de l'infini, on dit « ouais, c'est super », mais on est aussi tout à fait humain, et notre moi-je n'est pas forcément négatif, il est aussi positif, ce qui nous permet d'exister, d'être présent pour les autres, et de vouloir s'améliorer. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on existe encore en tant qu'individu? Est-ce que ce psaume-là n'est pas aussi la dilution de notre identité dans le grand tout de notre droite infinie, de notre grande plage dont je parlais tout à l'heure? Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis la nuit des temps, les scientifiques disent qu'il y a eu au moins plus de 100 milliards d'humains qui sont passés sur Terre. Donc ça vous met notre position par rapport à ça. Donc tout ça peut aussi, au-delà de la promesse universelle, avoir quelque chose d'assez angoissant, je le disais. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme si tout cela avait été prévu, juste avant, on a le psaume 116. Alors du coup, c'est un psaume, j'en passe à deux, qui est un peu plus long, et qui, lui, est totalement centré sur « moi-je ». « Moi, j'ai peur de ceci, moi, j'ai ça, moi, j'ai cela ». Donc je vais vous le lire. Il est assez rapide, parce que là, vous allez sans doute plus vous retrouver que dans les grands peuples et toutes les nations, donc c'est un psaume que vous devez connaître, mais qui, lui, alors là, va faire totalement écho à notre quotidien, à quelques moments de notre vie que ce soit. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix et mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce, et il est juste. Notre Dieu est compatissant. L'Éternel garde les simples. J'étais affaibli, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'ai cru quand j'ai parlé. J'étais très malheureux. Je disais dans ma précipitation, tout homme est menteur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Je te supplie, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Donc là, le psaume précédent, on passe vraiment à du personnel, où chacun peut se reconnaître un moment ou l'autre. J'étais dans la peine, dans le chagrin, dans la terreur, dans l'incompréhension. Et à la fin, je retourne vers Dieu, louer l'Éternel. Et ce louer l'Éternel, je retourne dans la maison de Jérusalem, cet acte individuel qui devient l'acte collectif, dès le psaume suivant, devient le grand tout dont je parlais. Alors j'ai voulu tirer ce fil un peu plus loin, le rapport entre l'individu et le tout, dont ce psaume nous parle et le précédent aussi. Et donc du coup, je me suis dit, je vais m'amuser, voir si ça fonctionne, à appliquer la même méthode de ma simplicité artistique, de mon trait, de mon vie. Ok, c'est le 117 qui est le plus court. Mais quels sont les autres qui sont juste un peu moins courts? J'en ai trouvé trois, qui ont trois versets. Il n'y en a pas 40, il n'y en a que trois. Trois versets, c'est le 131, le 133 et le 134. Donc, ils sont situés un peu après. Et alors là, j'ai trouvé, c'était merveilleux. Là encore, en très très peu de versets, puisqu'ils ont tous en fait neuf, Dieu va en fait décrire tout le mode d'emploi pour aller de l'individu au collectif. Pour pas que nous nous sentions perdus. Que le coup de massue du 117, qui est magnifique, ne soit pas non plus quelque chose de rédhibitoire pour notre identité personnelle. Écoutons d'abord le 131. Prenez-le, c'est un mode d'emploi individuel. D'accord, il y a le grand tout, mais moi, qu'est-ce que je fais? Comment je fonctionne? Une fois que le 116 a été dit, j'avais très très peur de toi, je dis pas peur de toi, j'étais perdu, j'étais en souffrance, j'étais paumé, mais tu m'as sauvé, donc je vais louer l'Éternel avec le grand peuple et tout le monde. Mais une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je vis? 131, trois versets. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant, ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Mode d'emploi individuel. Ça concerne que toi et moi. D'abord, sois intelligent. Ne te lance pas dans des choses dont tu ne comprendras pas ni le début ni la fin et qui vont juste te mettre martel en tête ou te rendre un peu fada et qui vont te faire du mal. Sois humble, pas de regard arrogant, de regard hautain. Et sois calme, dans le calme et le silence. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Alors, c'est une image qu'on lit. Moi, ma fille a 7 ans, j'ai un peu oublié, mais maintenant que je suis grand-père, j'ai oublié hier. J'ai une petite fille de 6 mois, maintenant qui est née. Et donc, elle est venue cet été, buvait le sein de sa mère. Et quand elle s'endormait, mais alors, c'était le bonheur absolu, une simplicité totale. Et ben voilà. Quand un enfant, la sérénité, le calme d'un enfant sevré qui vient de boire ce dont il avait besoin, c'est la paix absolue, c'est la sérénité, c'est le bonheur. Eh bien, voilà comment Dieu nous demande d'être individuellement. On doit être intelligent, humble, raisonnable et savoir se trouver les moments de calme et de silence. On va s'extraire du bruit du monde pour avoir auprès de Dieu comme un enfant sevré où on peut se ressourcer et profiter pleinement et peut-être à ce moment-là de louer l'Éternel, mais dans des conditions absolument magnifiques. Mais attention, j'ai remarqué que ce côté individuel termine quand même par un côté collectif. Dernier, Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours. Toujours le fait de se sentir membre du peuple de Dieu. Et pas seulement, moi, j'ai le droit à la grâce de Dieu et les autres, ils peuvent aller voir ailleurs. Non. Cette grâce n'a de sens que si elle est collective aussi et si nous y participons par notre comportement. Donc, on passe au deuxième qui a trois versets, c'est le 133. Comme si après ce côté très individuel est nécessaire, il fallait franchir l'étape suivante. Et l'étape suivante est franchie. Autre psaume qui n'a que trois versets, encore l'extrême simplicité. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Ensuite, c'est que des exemples qui ne donnent pas grand-chose, qui n'ajoutent rien à cette idée unique. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ce vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc un individu seul, même s'il pratique ce qui a été dit dans 131, ne peut vivre seul. Il va falloir que, pour que ça fonctionne vraiment, ce qu'il a mis en place, sa relation avec Dieu, il va falloir qu'il aille habiter au sens symbolique du terme, c'est-à-dire avoir une communion avec des frères qui sont comme lui, dans le même état d'esprit. Et ça, c'est bon, et ça, c'est agréable pour commencer à se rapprocher du tout. Et c'est là, marqué à la fin, que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est drôle, c'est pas dans le psaume précédent. Comme si ce petit trait de génie encore disait « Vous, vous devez fonctionner comme ça. » Mais c'est en vous regroupant entre frères et sœurs qui vivent la même chose, qui ont la même soif, que la vraie vie va vous être donnée. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a un troisième psaume juste après, le suivant, qui a trois versets, tout court. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Donc le cercle s'élargit, la famille s'agrandit, de l'individu responsable face à son Dieu, qui passe à une communauté de frères et sœurs responsables aussi face à leur Dieu. Ensuite, on va devenir des serviteurs de l'Éternel. Donc si on est des serviteurs, ça veut dire que on est au service, donc on s'ouvre aux autres, on va plus loin, on ouvre grandes les portes. Et là, il est question à ce moment-là d'élever nos mains, de bénir, et pas de bénir n'importe qui, de bénir celui qui a fait les cieux et la terre, où vivent toutes les nations et tous les peuples. En 9 et 2, en 11 versets, la boucle est bouclée. De notre comportement individuel dans la foi, par rapport à notre place dans le monde non-croyant, soyez au calme, et en même temps, dans le monde des croyants, depuis le début de cette ligne dont on ne voit rien, jusqu'à la fin de cette ligne dont on ne sait rien encore. Alors, c'est vraiment le plan de Dieu, dans toute sa splendeur, et je dirais dans toute sa simplicité magnifique. Évidemment, on va lire d'autres psaumes à d'autres moments, et vous verrez qu'ils sont superbes, vous savez tout autant que moi, et on pourra dire des très très belles choses. Mais ces quatre-là, je les avais jamais vus sous cet angle-là, et j'aimerais juste pour conclure, mais ça n'a pas été très très long, parce que c'est des petits psaumes, des petites prédications, je vais lire les quatre à la suite, d'accord ? L'individu, les frères, les serviteurs, et le peuple global. À l'aune de ce que je viens de dire, essayez de voir avec moi tout le plan magnifique qui est mis en place et la simplicité et avec lequel tout ça est exprimé. Éternel, je n'ai ni un cœur arrogant ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme. Comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. Israël, attends-toi à l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers les sanctuaires et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Glorifiez-le, vous, tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace. La vérité de l'Éternel dure à toujours. Louez l'Éternel. Et pour conclure, puisque les psaumes, c'était des chants. J'ai trouvé sur Internet, et grâce à Thomas, le psaume 117 a été très souvent mis en musique, comme pas mal de psaumes, mais celui-là spécialement, alors sous une forme, donc ça s'appelle « Louer l'Éternel, Laudate Dominum », pour ceux qui ont fait un peu de latin, Et donc, il y a eu plusieurs versions, mais la plus célèbre, c'est celle de Mozart, hein, en 1780, dans les vêpres solennelles d'un confesseur. Donc, j'aimerais que ça dure 4 minutes, que tout ce que je vous ai dit, qui n'était que ce que j'ai pu dire. Alors, les paroles sont un peu... Quand ils font des psaumes, en fait, ils en rajoutent un peu, ils répètent des choses, mais c'est le psaume 117. Essayons d'écouter la voix magnifique. Alors, ça a été pris dans une église baptiste, hein, pour que ça reste sobre, parce qu'il y en a où c'est un peu moins sobre. C'est magnifique, et c'est... Non, même si c'est en latin, tant pis. Essayons de comprendre ce que nous disent ces quatre psaumes qui ne font qu'un. C'est le plan de Dieu, notre petit segment à nous sur cette longue droite infinie, mais on a notre place, et à titre individuel, totalement, parce que Dieu nous connaît personnellement, et c'est là le grand mystère, et en même temps, nous sommes partis d'un tout dont on ne sait pas encore comment ça se passera vraiment, mais dont on a la promesse absolue que ça sera magnifique et merveilleux.